Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Les inondations, comment les prévenir? Nous en parlons avec Théodore Le Cacao. On l'a dit tout à l'heure, il est expert en environnement, en RDC. Plusieurs quartiers, villes connaissent des inondations lors de fortes pluies. D'après les spécialistes, le manque de curage de caniveaux et les constructions anarchiques seraient à la base de cette situation. Alors, comment prévenir ces inondations? Théodore Le Cacao, qu'est-ce qui provoque les inondations? Ça, c'est parce qu'on en parle à travers presque plusieurs villes de la RDC. Il y a Kalemi, il y a Kisangani, il y a également Kinshasa.
Bien, le phénomène d'inondation provient du fait qu'un excès d'eau de pluie n'est pas suffisamment orienté, n'est pas suffisamment canalisé vers un exutoire naturel. Ici, nous appelons exutoire naturel, donc vers une rivière, vers un cours d'eau. Et cette eau, stagnant dans un milieu, peu à peu, augmente des quantités, des volumes, de sorte qu'elle va rentrer dans les habitations, elle va rentrer dans tout l'espace et inonder cet espace.
Voilà, quand vous parlez d'un excès d'eau qui ne sait pas être canalisé, là on voit déjà le problème par exemple de caniveaux qui ne sont pas curés ou bien parfois qui n'existaient même pas.
Oui, un problème fondamental, c'est que la plupart des caniveaux que nous avons aujourd'hui sont des caniveaux qui datent de l'époque coloniale. Et ces caniveaux ne sont pas suffisamment entretenus ou régulièrement entretenus. Et il y a aussi un comportement incivique de nos citoyens qui consiste à jeter des déchets, des détritus dans ces caniveaux, les bouchant, l'empêchant ainsi de jouer son rôle régulateur d'évacuation des eaux pluviales.
Il y a également d'autres parts de constructions anarchiques, les gens construisent n'importe comment.
Bien sûr, il y a des constructions anarchiques quand nous voyons la plupart de nos rivières. Les gens ont construit le long de berges de ces rivières. Et pas seulement construit le long des berges de ces rivières, ces rivières sont devenues des dépotoirs sauvages, si vous voulez. Hein, dont les gens y jettent tout ce qu'ils ont comme déchets dans leurs parcelles respectives.
Alors, en principe, ça devait se passer comment? Si, par exemple, il y a un terrain qui a été loti et des gens qui doivent construire, et en principe, il faut qu'au niveau du gouvernement, qu'il y ait peut-être le ministère des infrastructures qui, en principe, doit construire des caniveaux pour permettre l'évacuation des eaux. Parce qu'on voit même dans certains quartiers, il n'y a pas de construction anarchique, où il y a des maisons bien construites, mais il n'y a pas de caniveau.
Je ne sais pas quels sont les quartiers que vous connaissez qui ne sont pas.
Je peux parler à Kinshasa de Massina sans fil par exemple. Il n'y a pas de caniveau. Il y a certains quartiers, mais Manjilo, quartier 7, il n'y a pas de caniveau. On voit de grandes avenues avec des maisons bien construites, mais il n'y a pas de caniveau.
Oui, mais Massina, c'est un quartier qui a été aussi plus ou moins conçu de façon anarchique. C'était l'ancienne parcelle de la RTNC. Les gens ont plusieurs fois occupé ce terrain.
Ça, vous parlez Massina sans fil.
Sans fil, oui. Ces terrains étaient, des parcelles ont été détruites. Et finalement, les gens ont occupé ce terrain. Et en l'occupant, ils n'ont pas pensé faire des caniveaux. Et quand vous allez à Massina aujourd'hui, certaines rues sont inondées après une pluie et vous ne savez pas passer à pied. Pour passer en voiture, ça fait problème. Donc, c'est un problème de, les infrastructures de base doivent précéder le lotissement d'un terrain. Bon, là, c'est au niveau, disons, du fonctionnement des institutions ou des structures administratives des communes. Mais au niveau des individus, il y a le problème de discipline, il y a un problème d'entretien des caniveaux qui devant sa parcelle. Un caniveau n'est pas un dépotoir. Un caniveau, c'est a un rôle à jouer par rapport aux eaux pluviales. Donc, il faut les maintenir en état de propreté. Il ne faut pas qu'il y ait à l'intérieur des déchets qui vont l'empêcher de jouer son rôle. Donc, c'est ce qui est très important. Mais des stratégies existent. Hein. Il y a des stratégies de protection, comme on dit, pour lutter contre les risques hydrologiques, donc notamment contre les inondations. Il faudra donc empêcher, par exemple, il y a une stratégie qui consiste à empêcher les phénomènes de se reproduire. Ici, on essaye, dans la zone de départ des eaux, de reboiser. Hein, reboiser pour que les eaux soient freinées dans leur écoulement. Et on construit des digues Hein, des digues, les longs, par exemple, des berges, des rivières telles que la rivière Njili, ont conçu des digues tout au long pour que ces eaux ne débordent pas si elles atteignent un niveau, un seuil critique, par exemple. Alors, il y a aussi le problème de la nappe aquifère dans la plaine de Kinshasa. Si la nappe est saturée, donc facilement, elle ne peut plus accueillir des eaux qui tombent. Alors, pour que... qu'on puisse diminuer la hauteur de cette nappe, il faut faire ce qu'on appelle un rabattement, donc creuser des puits pour que ces eaux-là puissent être évacuées et permettre que la nappe puisse encore de nouveau accueillir les eaux de pluie. Donc ce sont ces quelques remarques qui, disons à mon avis, à mon humble avis, doivent permettre de résoudre ou de réduire les problèmes des inondations à Kinshasa.
Mais ça, c'est des stratégies au niveau, pour niveau de famille, ça c'est compliqué.
Oui, en fait, c'est un problème qui, à la rigueur, doit être géré par les institutions administratives ou urbaines.
Alors, pour des quartiers où souvent, lorsqu'il y a des fortes pluies, c'est des quartiers qui sont sous les eaux, comment ils peuvent faire? Il y a des quartiers, par exemple, à Matete, je me rappelle plus très bien de ces quartiers, mais chaque fois qu'il y a des fortes pluies, c'est pas facile de passer dans ces genres de quartiers.
Oui, moi je peux vous citer, parce que je connais un peu bien Matete, et donc nous avons les quartiers des Bonhommes, oui. Hein, le long de la rivière Njili. C'est un quartier qui se situe le long de la rivière Njili, et que si, comme c'est plus ou moins... le niveau de terre ou de l'espace est à plus ou moins même niveau que les eaux, s'il y a, disons, élévation de la hauteur des eaux de la rivière, le quartier est inondé. Mais pour bien protéger le quartier, donc il faut construire tout au long de cette rivière une digue, soit en terre, et on peut planter des vétivers qui peuvent, disons, stabiliser les sols et empêcher les eaux de déborder. Donc, il faut avoir plus ou moins une connaissance de la hauteur maximale atteinte pendant une période critique donnée, hein, donc une pluie exceptionnelle donnée, et afin de pouvoir construire la hauteur maximale aussi de la digue, empêchant les eaux de pouvoir inonder les quartiers. Bien, à l'intérieur même du quartier, bon, il y a certainement un problème de la nappe qui est saturée et que les eaux, à ce moment-là, stagnent. Alors, pour que les eaux ne stagnent pas, donc, on devrait construire des caniveaux. C'est un problème aussi qui peut être résolu à l'échelle de l'individu ou des individus. Pour chaque avenue, les gens se mettent d'accord de construire même des petits caniveaux qui peuvent permettre les eaux d'écouler vers la rivière de Njili qui est à côté.
Voilà, Gustave nous appelle du Kananga, dans la province du Kassai Occidental. Gustave, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Kassai, ainsi que l'invité qui est aussi dans les studios.
Bonjour.
Merci de m'avoir couvert chez toi, mon temps.
Ah, on vous écoute,
je
Gustave.
Je n'ai pas beaucoup à dire ou beaucoup à discerner. J'ai une petite préoccupation. Monsieur le journaliste, parlez-moi clairement ce qu'on attend par l'inondation. Qu'est-ce qui provoque encore l'inondation? C'est ça ce que j'avais voulu dire. C'est Gustave Bakat, Minera Bakale, finaliste de l'Institut Boissier à Kananga. Permettez-moi de faire des bonnes choses à mon poste, c'est-à-dire que c'est Papa Alpha, sans oublier mes condisciples.
Merci Gustave. L'invité va, certainement vous avez pris l'émission en cours, donc l'invité va répondre à votre préoccupation par rapport à, vous savez, vous devez chercher à savoir qu'est-ce qu'on attend par inondation et puis quelles en sont les causes, Théodore Lokakao.
Bon, une inondation, c'est un phénomène, je dirais, naturel, qui survient après une grosse pluie, de sorte que les eaux de pluie qui tombent ne savent pas être canalisées, évacuées vers un cours d'eau naturel. Parce qu'en fait, à travers les cycles de l'eau, vous savez comment ça se passe. Hein, les eaux de pluie tombent sur un espace donné, et puis après, en fin de compte, s'écoulent, ou s'infiltrent, ou s'écoulent, ou ruissellent vers le cours d'eau, vers les lacs, etc., vers le fleuve, vers l'océan. Alors, s'il y a inondation, ça signifie que ces eaux ne sont pas... écoulé, donc stagne sur un espace donné et provoque des dégâts, occasionne des problèmes, des maladies après. Vous avez des maladies d'origine hydrique qui s'ensuivent. Alors, qu'est-ce qui provoque? C'est le fait qu'il y a manque des ouvrages d'évacuation dans cet espace qui ne permettent pas que l'eau soit directement évacuée après la pluie, ruisselle vers les cours d'eau naturels, ce que nous appelons les exutoires naturels.
Voilà, on va accueillir Ismaël Mopoyi qui est à Lubumbashi dans la province du Katanga. Ismaël, bonjour.
Bonjour Marcel.
On vous écoute.
Oui, j'ai une petite préoccupation de savoir ce qui se passe actuellement, ce qui provoque des inondations, par exemple, même des voitures qui passent sur la ville de Lubumbashi, tu sais quoi? C'est par exemple, on jette plus des bouteilles en plastique. Cela fait aussi la suicide dans des certaines rivières et cela entraîne maintenant l'inondation. La question dont je devais poser à notre expert en environnement était de savoir quelle peut être la méthode par laquelle on peut élaborer pour prévenir les rejets, par exemple, des bouteilles et quoi que ce soit. Et par exemple, la conséquence, juste quand tu as les inondations, les gens qui construisent ou l'attribution, par exemple, des parcelles jusqu'au bord de la rivière, par le cadastre, quel peut être aussi les conseils, soit cette cause est provoquée par l'habitation ou par les services du cadastre, c'est ça?
Merci Ismaël. Théodore Lokakao va vous répondre.
Oui, en fait, quand on jette des déchets dans un cours d'eau, on réduit la hauteur ou les niveaux des eaux dans la possibilité de hauteur d'eau dans cette rivière. Parce que si c'est un cours d'eau qui reçoit par exemple 10 mètres cubes avec une hauteur, disons, je prends par exemple 1 mètre, si vous y jetez des déchets, ces déchets vont réduire cette hauteur de 50 cm par exemple. À ce moment-là, s'il y a cette même quantité qui arrive sur le même espace, ça va chercher à aller quelque part. Parce qu'elle ne pouvait pas être contenue dans les lits de la rivière, cette eau va chercher à aller au-delà de la rivière, donc au-delà du lit de la rivière, et déborder sur l'espace environnant, donc sur les berges qui entourent le cours d'eau et inonder ces espaces. Donc c'est en fait ça qui provoque. Donc il faut empêcher que les gens jettent les déchets dans le cours d'eau et aussi il faut curer régulièrement votre cours d'eau.
Inondation, comment les prévenir? On en parle avec Théodore Lokakao, il est expert en environnement. Vous êtes intéressé par le sujet, appelez-nous au 081-890-6394. Excusez-moi, ou également faites-nous un SMS au 081-711-5001.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Okapi. Jérémy Do, il est à Bandundouville, dans la province du Bandundou. Jérémy Do, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à l'invité. Bonjour à vous aussi.
Bonjour.
On vous écoute.
Bon, j'ai deux types de questions à poser à l'invité. Je ne sais pas, à l'invité, il est expert à l'environnement. Est-ce que, je ne sais pas, une question de curiosité. Le fait de beaucoup couper les plantes et que la pluie pleut abondamment, est-ce que ça peut causer des inondations? Ça, c'est la première question. Mais la deuxième est de celle-ci. Bon, je ne sais pas. Ici à Bandundouville, ça plaît beaucoup. Mais si vous constatez, les gens mettent des plantes ou des sacs, on met des sables dedans pour arrêter les inondations par-ci par-là. Mais ce que je constate, même on met les sables, même on plante des arbres là, ça toujours, l'inondation est toujours plus grave. Je ne sais pas si l'invité peut nous donner d'autres modalités pour s'emparer à ces inondations-là. C'est ça ma préoccupation.
Merci Jérémy Do. Théodore Lokakao.
Oui, couper les arbres a un impact sur les cycles de l'eau. Donc, la coupe désordonnée, désorganisée des arbres est à interdire. Parce que les arbres interviennent dans le cycle de l'eau. Vous savez que les arbres aussi, nous disons, transpirent par les pores qui sont sur les feuilles. Il y a de l'eau qui est dégagée dans l'atmosphère et cette quantité d'eau-là intervient aussi dans la formation des nuages et dans les précipitations. Donc, je vois très mal dans une zone où on coupe beaucoup d'arbres et qu'il puisse pleuvoir beaucoup. Donc, vous allez réduire la quantité de précipitations qui va tomber. Mais faire des sacs pour, disons, lutter contre les inondations, bon, c'est une bonne chose, mais vous les faites comment? Et je crois que la meilleure chose, c'est de faire des digues pour que les quantités d'eau qui vont s'écouler puissent être retenues ou pour qu'elles ne puissent pas inonder les zones en aval. Donc, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Il faut pas mettre les sacs avec du sable n'importe comment, mais il faut le faire d'une façon technique en faisant recours à des spécialistes qui vont vous aider à faire cette opération technique.
Voilà, Abel nous appelle de Kinshasa, Norbert est à Kolwezi dans la province du Katanga. Abel, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Okay. On vous écoute.
Ok, okay, c'est Abel Bainol depuis Kinshasa. J'ai une question à poser à notre invité du jour. Ok, ma question se présente comme si. Je voudrais savoir quel conseil l'invité pourrait donner aux gens qui ont construit leur maison tout au long de la rivière Ndjili, la machine à Petro-Congo. Parce que, on voit quand il pleut, à l'absence de caniveaux conformes, quand il pleut, il y a vraiment l'inondation. Donc, c'est du pire catastrophe. Alors je voudrais savoir quel conseil l'invité peut-il donner pour ces gens-là qui ont construit leur maison tout au long de la rivière Ndjili. Merci. C'est ça ma question.
Merci beaucoup, mais c'est une très bonne chose parce que je suis concerné. J'habite le quartier Petro-Congo, le long de la rivière Ndjili. Nous avons même connu un petit problème d'inondation il y a 2 ans. Parce que dans une parcelle, quelqu'un n'a pas bien entretenu la digue en sable qui longe, qu'on a fait faire par les quartiers, et que quand il y a eu un surélèvement d'eau, et donc ces gens cherchaient à passer par cette parcelle. Alors nous étions inondés dans les maisons jusqu'à hauteur de 1,5 m, 2 m dans chaque maison. Vous comprenez ce que ça représentait. Donc il y a eu beaucoup de dégâts matériels. Alors. Le conseil à donner, c'est que d'abord que les gens s'organisent. C'est ce que nous avons fait, nous, dans notre quartier. C'est le nouveau quartier où les Chinois faisaient des rizières. C'est là où nous sommes. Et nous sommes organisés en association. En association, et nous cotisons pour la construction de notre digue ou de notre digue le long de la rivière. Dans un premier temps, on a essayé de mettre du sable, des détritus. Maintenant, la hauteur de la berge est très très élevé, et même dernièrement là il y a eu des grosses pluies venant des eaux de pluie venant du Bas-Congo. Ça n'a pas pu nous inonder comme ça a eu lieu il y a 2 ans. Donc il faut commencer à s'organiser en attendant que l'État intervienne.
Comment on peut faire alors? Peut-être que puisque vous habitez le quartier, puis Abel est dans le quartier, vous pouvez peut-être donner vos contacts. On pourra vous voir pour savoir comment vous avez fait. Comme ça peut aider tous les autres riverains, tous ceux qui ont construit du côté de Petro-Congo le long de la rivière.
C'est très simple. Donc j'ai mon numéro de téléphone 081 084 1501.
Voilà, 091-084-1501. Voilà, peut-être les habitants du coin, du côté de Massina Petro-Congo pourront bien rencontrer notre expert. Hein, comme ça, ils pourront vous dire comment ils ont fait pour faire face à des inondations. Nous avons Norbert qui est à Kolwezi et Freddy Kabamba qui est à Lubumbashi. Tous les deux sont dans la province du Katanga. Un coucou à nos auditeurs du Katanga. Norbert, bonjour.
Bonjour monsieur, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kapi.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, je voulais juste intervenir par rapport au sujet. Nous sommes à Kolwezi, nous constatons que s'il y a une pluie, on retrouve que l'eau entre dans des maisons et on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire parce que c'est une ville tellement sablonnée, il y a des érosions qui commencent à naître par-ci, par-là. Est-ce que l'invité peut un peu nous préciser qu'est-ce qu'on va faire parce que les habitants, ils ont toujours l'habitude de boucher un peu des caniveaux existants que les Belges ont laissés. Alors on se retrouve, après une pluie qui a des dégâts, des maisons qui s'écroulent, il y a même des noyades. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter un peu ça?
Merci Norbert. Freddy Kabamba, vous êtes à Lubumbashi, toujours dans la province du Katanga. On vous écoute, Freddy.
Oui, bonjour. Merci d'avoir m'accordé la parole. Ma question, je m'adresse à notre invité. Par exemple, ici chez nous, à Lubumbashi, dans notre quartier d'Ambela, dans la commune de Lubumbashi. Si la pluie a terminé à se prévoir, vous trouvez à peu près 5 maisons qui sont entourées avec les eaux de pluie. Quelles sont les formules que la population peut faire pour terminer les eaux de pluie? À peu près 4 parcelles ou 5 parcelles qui sont toujours entourées avec les eaux de pluie. Merci d'avoir m'accordé la parole. Je m'arrête là.
Théodore de Cacao.
Bon, premier auditeur, nous dirons, vous avez reconnu la cause. Donc, quand il y a un problème et que vous identifiez la cause, il faut s'attaquer à la cause pour que le problème ne se pose plus. Donc, commencez d'abord par faire des opérations de travaux collectifs, des débouchages de caniveaux, et vous verrez que petit à petit, les eaux ne pourront plus stagner dans vos parcelles. Donc, je crois que c'est le seul conseil qu'on peut vous donner dans un premier temps. Et puis aussi, essayez d'observer l'écoulement des eaux et des ruissellements pour voir comment vous pouvez les canaliser pour qu'elles aillent au niveau des cours d'eau qui sont dans la ville ou autour de la ville.
Alors, qu'est-ce que vous dites également
à Freddy? Ouais. Bon, à Freddy, c'est la même réponse aussi. Hein. Donc, c'est un problème d'évacuation des eaux pluviales. C'est vrai que s'il n'y a pas de canalisation, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, soit il faut faire des petites digues de rétention pour que ces eaux ne puissent pas être autour de parcelles. Donc, essayez de les canaliser, si possible, avec des sacs remplis de sable pour que ces parcelles ne soient pas inondées. Donc, c'est, il n'y a pas de, disons, un ABC que je peux dire appliqué à toutes les situations, mais c'est à l'aide des urbanistes que vous avez dans la ville. Il faut les consulter, il faut les utiliser. Ce sont des techniciens que l'État met à votre disposition. Il faut que, dans ces genre de choses, vous puissiez bénéficier de leur technicité. Alors, c'est là qu'ils pourront vous donner la meilleure réponse à vos préoccupations. Parce qu'il faut être sur le terrain pour apprécier la situation.
Donc, comme vous l'avez dit, tout à l'heure, le plus important, c'est vraiment d'essayer de voir avec les autres personnes qui habitent dans le quartier, chercher, voir où on peut canaliser de l'eau comme ça. Bon, mais c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Est-ce que, avec votre expérience, ça a été facile? Les gens ont collaboré facilement?
Oui, parce que quand les gens ont eu à vivre cette catastrophe, vous comprenez, pendant 2 ou 3 jours, notre quartier était inondé, donc les gens avaient quitté le quartier, et Dieu merci, on avait coupé le courant avant, mais supposez que le courant n'était pas coupé, on aurait connu beaucoup de cas de mort, et puis des gens ont perdu beaucoup de biens. Donc, ayant réalisé ça, et la plupart, nous sommes des propriétaires, on s'est dit, bon, on n'a pas quand même investi beaucoup d'argent à construire cette maison pour la perdre, comme ça, mais si on peut économiser régulièrement $50 le mois ou $100 le mois, on peut faire des ouvrages en maçonnerie qui peuvent permettre d'arrêter ces inondations, d'empêcher ces inondations. Donc c'est ce que nous avons fait et on est organisé en association du quartier pour lutter effectivement contre ces inondations.
Et là vous avez fait comment? Vous avez intéressé les responsables du quartier, les responsables
non.
de...
Non, il y a eu, quelques personnes qui ont initié cette structure et qui la pilotent et qui cotisent et qui nous ont poussé à cotiser aussi. Qui ont d'ailleurs elles-mêmes démarré les travaux et puis après tout le monde a suivi.
Les inondations, comment les prévenir? On en parle avec Théodore Le Cacao, expert en environnement. Vous avez peut-être des préoccupations. Vous êtes en train de suivre au Capi Service ce sujet sur les inondations. Vous avez peut-être été victime de cette catastrophe. C'est le moment d'appeler notre invité là pour vous donner quelques pistes de solutions. Donc, vous pouvez appeler au 081-890-6394 ou nous faire un SMS au 081-711-5001.
Votre connexion Internet est trop lente? Radio Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes ML. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes ML, c'est gratuit. Radio Okapi.net à votre service.
Et voilà, on parle des inondations, comment les prévenir. Vous avez dit qu'il faut vraiment absolument ne pas jeter les détritus dans des caniveaux parce que ça empêche l'eau de couler vers des exutoires naturels. Donc c'est important, donc la population doit retenir ça pour ceux qui habitent dans des quartiers où on jette des ordures dans les caniveaux. On a un auditeur en ligne, c'est Moïse Bukasa qui est à Kananga, dans la province du Kassai Occidental. Moïse, bonjour. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, on vous écoute, Moïse.
Ok, monsieur le censeur, je voulais parler ceci. Les problèmes reposent sur notre État. Il y a des quartiers tels qu'ici, à Kananga, à Kamaï précisément, dont le Belge avait laissé ces quartiers-là inoccupés. Mais aujourd'hui, dont je vous parle, ces quartiers-là est peuplé et le service cadastral n'a pas pu pourvoir vraiment où il pouvait mettre vraiment des caniveaux. Aujourd'hui, ces quartiers sont inondés, on ne sait où mettre vraiment ces eaux-là. Alors, tout, je demande à notre invité, quels sont les conseils qu'ils peuvent nous aider? Puisque nous nous aidons avec les sacs, on met du sable, pour... donc il n'y a même pas de passage.
Théodore, oui,
bien sûr, je n'ai pas insisté sur une autre stratégie qui consiste à lutter contre les inondations par des mesures réglementaires. Et les mesures réglementaires, c'est les structures étatiques qui doivent le faire respecter. Notamment, il faut que les mesures réglementaires, disons, sont des natures. Il y a des mesures réglementaires permanentes, donc qui fixent l'occupation du sol, de l'espace urbain, d'un milieu donné. Et il y a des mesures aussi temporaires qui visent à interdire l'accès à un espace pour permettre qu'on puisse faire des travaux des génies civils pour qu'on puisse faire des infrastructures de base pour permettre à la population de vivre dans les meilleures conditions. Alors, je crois que la plupart des cas, nous sommes ici devant des faits, des situations, des faits où les gens viennent d'abord habiter, et puis après, ils se disent, mais ah, il y a des problèmes d'inondation, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que l'État doit faire? Nous demandons à l'État d'intervenir. Et parfois, ils occupent anarchiquement, et dans la plupart des cas, c'est anarchiquement, etc. Et après, l'État est difficile à les déloger, parce que pour les déloger, cela signifie qu'il faut trouver un autre espace, construire des habitations, pour d'abord aménager ce qui a été construit, et pouvoir après... demander à la population de revenir. Alors, devant cette situation, la meilleure des choses, nous disons toujours que la population se prenne en charge, dans un premier temps, s'organise et demande le concours de l'État pour qu'on puisse trouver des solutions à leurs problèmes, d'une façon générale.
Est-ce qu'avec des inondations, il y a aussi à craindre des érosions?
Alors, cela dépend. Si nous sommes dans une zone avec forte pente, certainement. Parce que s'il y a beaucoup d'eau qui stagne en amont, sur la colline, ça va se déverser sur le versant et petit à petit créer de forts ravins et de fortes érosions.
Benoît Okito est à Lubumbashi dans la province du Katanga. Benoît Okito, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole, Benoît.
Bon, moi je voudrais juste poser une question à l'invité. Et je suis à Lubumbashi, je suis dans un quartier où lorsque la voie publique était non asphaltée, on n'avait pas connu les problèmes d'inondation. Mais juste après la mise en marche des 5 chantiers, on a arrangé la voie. Bon. C'est alors qu'on a commencé à connaître les problèmes d'inondation. Je ne sais pas comment l'invité peut me conseiller. Qu'est-ce que nous pouvons faire vraiment pour nous en sortir, etc.
Ah, mais merci Benoît, il va vous répondre tout à l'heure.
Mais justement, parce que plus on étend la ville, plus la surface bâtie de la ville augmente, plus l'infiltration du sol est empêchée. Donc, les eaux qui tombent là cherchent à s'écouler quelque part. Lorsqu'on a conçu cette voie publique, on devrait... associé à cette voie publique, des voies d'évacuation des eaux pluviales. Parce que le coefficient d'infiltration de cet espace était déjà plus ou moins, je dirais, annulé. Donc, les eaux ne pouvant plus s'infiltrer, donc elles devaient s'écouler sur la surface bâtie qu'on a faite. Alors, il fallait penser à créer des caniveaux pour que ces eaux puissent être amenées vers un exutoire naturel ou un cours d'eau ou une rivière. Donc, si on n'a pas fait des caniveaux à côté, moi je crois que c'est une erreur parce qu'en fait la voie là ne va pas durer, elle sera attaquée par des érosions sur les côtés et puis petit à petit elle va être détruite par les eaux de pluie.
Voilà, Godefroy Moukeni est à Kananga dans la province du Kassa occidental. Godefroy Moukeni, bonjour.
Je voulais un peu demander à notre invité de l'urbanisme, de l'environnement. Quelle piste de solution il peut apporter à nos amis qui ont déjà construit dans les quartiers qui ne sont pas canalisés? Dédé, je voulais un peu lui demander pourquoi, quand surtout le gouvernement veut ouvrir de nouveaux quartiers, pourquoi les gens de l'environnement ne prévoient jamais, de l'urbanisme plutôt, ne prévoient jamais la canalisation avant d'octroyer les parcelles aux ayants droit? Merci.
Merci Godefroy. Notre invité va vous répondre. Théodore Lokakao.
Oui, mais... Le problème, c'est que les gens occupent un terrain et puis l'État intervient après. Or, ça doit être l'inverse. Les gens viennent après que l'État a fait un plan des infrastructures du quartier. Maintenant qu'ils ont occupé, moi j'ai dit, c'est à la fois la responsabilité collective de la communauté qui vit dans ce quartier et de l'État. Et dans un premier temps, c'est à la communauté de prendre conscience du problème et poser le problème clairement à l'État pour qu'on trouve des solutions. Mais je ne peux pas d'emblée vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Non, il faut que vous-même, qui êtes ces quartiers, vous puissiez, prendre conscience du problème individuellement et collectivement et donner des propositions, des solutions à l'État avec un projet.
Voilà Théodore Lokakao, aussi avec ce conseil qu'on va mettre fin à ces sujets sur les inondations, comment les prévenir. Donc, en attendant de voir qu'est-ce que l'État peut bien faire, c'est aux communautés de s'organiser. Mais bon, il faut résumer, il est important d'éviter de boucher les caniveaux, oui. Parce que les caniveaux, lorsqu'on les bouche, l'eau ne sera pas s'écouler. Puis vous avez également parlé d'autres stratégies.
Curer régulièrement les cours d'eau, donc n'est pas occuper les berges autour des cours d'eau, parce que s'il faut faire des travaux de curage, on a besoin de faire passer des véhicules, des engins autour de ces berges. Donc, s'il y a des habitations, il sera difficile de les faire. Hein, donc, ne pas jeter des immondices dans les cours d'eau. Hein, cela réduit les lits et créer des digues, des rétentions par-ci, par-là.
Et pour ceux qui n'ont pas de moyens, ceux qui habitent dans des quartiers où il y a des inondations, mais ils sont vraiment démunis.
Bon, l'effet de dire démunis, oui, mais quand ensemble, avec le peu qu'on a, on cotise, on peut faire quelque chose. Hein, il y a des jeunes gens qui sont là, qui peuvent faire des travaux avec des pelles. Mais ce n'est pas seulement des gros moyens qu'il faut, mais parfois ce sont des moyens simples, mais il faut bien les concevoir.
Merci Théodore Lokakao. Nous rappelons que vous êtes expert en environnement et vous étiez notre invité pour commenter et répondre aux préoccupations de nos auditeurs sur le sujet comment prévenir les inondations. Merci, à la prochaine.
Je vous en prie, merci aussi.